Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu que vous êtes des compétitifs? Lève ta main si t'es quelqu'un de compétitif. T'aimes pas perdre. T'haïs ça perdre. Okay? Il y a des gens, là, vous êtes de même. Oui, c'est moi. Il y en a d'autres que vous n'êtes pas du tout compétitifs. Vous, là, vous voulez juste vous amuser puis ça ne vous dérange pas de finir deuxième ou centième. C'est juste, on a du fun, on s'amuse. Moi, je ne suis pas comme ça. Ma femme rit très fort en avant parce qu'elle me connaît très bien. J'aime gagner. Okay? J'aime tout donner dans les sports. Je suis le genre de personne qui, même si je perds 8-0 et qu'il reste 4 minutes, je pense que je peux gagner encore. Okay? Je n'abandonne jamais. Je me bats jusqu'à la fin. Je trouve toujours des solutions pour faire gagner mon équipe. J'aime gagner. Mon père aussi est comme ça. Il est ici ce matin, je le mets sur le spot. Lui aussi, il est très compétitif. Et on fait un des sports qu'on pratique ensemble, c'est le golf. Okay? Il y en a qui diront que ce n'est pas un sport, mais ceux qui disent ça n'ont jamais joué au golf, c'est vraiment un sport. Et on est compétitif, on se taquine l'un l'autre pour savoir qui va jouer le mieux. Puis souvent, ça donne comme ça, mais souvent, l'un bat l'autre de un coup seulement. Donc, c'est très chaud et c'est très le fun. Vous savez, dans la vie chrétienne, ce que le Seigneur veut pour toi, c'est que tu sois un gagnant et un victorieux. Le Seigneur t'appelle à devenir une personne qui gagne. Tu peux dire « Amen » si tu veux. Si tu ne sais pas où je m'en vais, ça s'en vient bientôt. Je vais expliquer tout ça bientôt. Un des joueurs qui est dans ton équipe qui aide à ce que tu gagnes, c'est le Seigneur Jésus. Quand tu as Jésus dans ton équipe, ça aide à gagner. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais parler avec vous, c'est comment nous pouvons vaincre les tentations dans nos vies. Comment tu peux devenir une personne victorieuse face aux tentations qui assaillent ton âme jour après jour. La semaine passée, on a parlé de la force, comment on peut avoir de la force auprès de Dieu, comment on a besoin de sa force. On a parlé de prière, de combat spirituel. Et aujourd'hui, on s'inscrit un peu dans la même pensée et on regarde comment on peut obtenir la force nécessaire pour devenir des chrétiens victorieux dans le combat contre le péché. Combien ça tente de devenir ou de grandir dans la victoire? Lève ta main, lève tes deux mains, lève une jambe. On veut être victorieux. On veut être des chrétiens victorieux dans notre combat contre le péché. Donc ce matin, je vous donne des ingrédients, des outils, des trucs. On parle ensemble de comment devenir des chrétiens qui gagnent, qui avancent et qui honorent Dieu par leur vie, autant publique que privée. Parce que c'est ça que Dieu veut de nous. Dieu veut qu'on l'honore autant dans notre vie publique que privée. Le premier verset qu'on lit ensemble, c'est dans Galates 5e chapitre, au verset 16, qui nous dit ceci. « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre ou les désirs de la chair, comme vous avez déjà entendu. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Et ce texte ici nous lance et nous explique qu'il y a une bataille à l'intérieur de nous, de chaque croyant, entre notre nature humaine, notre chair, et l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous habite. Il y a cette bataille, il y a ce combat et il y a ce désir opposé en nous. Je sais qu'il y en a qui me regardent comme si je suis un extraterrestre. Chacun d'entre nous, nous avons ces combats. Chacun d'entre vous et d'entre nous, nous avons ces batailles intérieures entre servir Dieu, honorer Dieu, avoir une attitude qui honore Dieu et la chair et tout ce que ça implique dans un instant. On va en parler très bientôt. Et quand on devient chrétien, l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes instantanément pardonnés, nous sommes instantanément justifiés, nous avons accès d'un coup, en une fraction de seconde, nous avons accès libre à Dieu, notre destinée éternelle est scellée, nous allons au ciel, nous passons l'éternité avec Dieu. Mais combien vous savez ici qu'on ne devient pas parfait le jour qu'on devient chrétien? Tu peux dire « ouch, aïe, aïe, amen », n'importe quoi. Le début de la vie chrétienne, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, mais c'est le début d'un processus de transformation intérieure. Il y en a que vous êtes là-dedans depuis longtemps, hein, la transformation intérieure. Il y en a d'autres, c'est tout récent dans votre vie, d'être transformé, d'être changé par Dieu. Ce processus s'appelle aussi la sanctification, où Dieu nous épure, nous transforme. Il nous aide à nous libérer de nos chaînes, de nos péchés, de nos difficultés. Il nous fait grandir dans la sainteté. Et ce matin, je prie que ce message puisse être une source d'encouragement pour chaque homme, chaque femme dans ce lieu, que nous puissions grandir dans la victoire que le Seigneur a pour nous. C'est important de comprendre qu'il y a une bataille qui est intérieure, une bataille intérieure. La Bible nous appelle à la sainteté. 1 Pierre 1,14 nous dit ceci. « En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi, je suis saint. » Quand on parle de sainteté, pour certains d'entre vous, d'entre nous, ça nous ramène à des souvenirs ou à un passé qui est plutôt négatif. Dans certains cercles chrétiens, quand on parlait de sainteté, on le faisait avec un joug et un jugement sur les chrétiens. On en parlait, mais on tapait en même temps sur la tête de tout le monde. Et puis, on dénonçait le péché, mais sans offrir l'espoir et la grâce et l'accompagnement que Jésus et la force que Jésus peut nous offrir. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez été marqués justement dans votre enfance, dans votre début de vie chrétienne, par un message d'évangile qui était légaliste, qui était dur, où on se dénonçait les uns les autres, où on n'était jamais assez bon, jamais assez pur, jamais assez pour plaire à Dieu. Et je ne vous demanderai pas de lever la main, mais je sais que plusieurs d'entre nous, on vient d'un milieu comme ça. Et ça peut avoir des conséquences et même des séquelles à long terme sur notre santé mentale et spirituelle d'avoir vécu dans un milieu comme ça. Et aujourd'hui, je dénonce ça parce que la Bible, ce qu'elle nous appelle, c'est à la liberté, à la joie, à la grâce, à l'espoir. Ce qui est arrivé, merci pour les 3-4 amen. Vous m'encouragez tellement. Oh, yes. Ce qui est arrivé dans la vie de certains, c'est que après avoir vécu ces moments difficiles, vous avez évolué, cheminé dans votre vie chrétienne avec des marques et des cicatrices. D'autres personnes, ce qui est arrivé, c'est que vous êtes allé dans la direction opposée, un peu comme en réaction, me suivez-vous? Comme « j'avais rien de droit de faire, mais là, je vais faire ce que je veux, tout m'est permis, et on devient des chrétiens où on accepte tout et on intègre tout et on pense que tout est permis. » Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on essaie ensemble de naviguer vers une vie chrétienne d'équilibre, une vie chrétienne où on dénonce le péché, mais on ne tape pas sur la tête du pécheur. Êtes-vous là? Où on dénonce le péché, et oui, on est appelé à la sainteté. Oui, je déclare aujourd'hui, nous sommes tous appelés à la sainteté, à grandir avec Dieu, à rejeter le péché, à combattre la tentation. C'est l'appel de Dieu. Mais le Seigneur est avec toi là-dedans. Le Seigneur veut t'accompagner. Le Seigneur veut te donner sa force. Le Seigneur veut te remplir de joie dans ce processus. Le Seigneur ne veut pas t'écraser sous le joug d'une condamnation, sous le joug de la honte et sous le joug de la culpabilité. Tu peux dire amen. Le Seigneur veut que tu t'engages avec moi dans ce combat, mais que tu puisses être victorieux et qu'il puisse te donner cette joie dans le processus, dans cette vie. Galates 5, au verset 19, nous dit ceci. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont, et là il y a une nomenclature, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On connaît tous des choses semblables aussi qui rentrent dans cette catégorie-là, hein, vous êtes d'accord? Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Aujourd'hui, je nous appelle à nous engager ou à nous réengager sur la voie de « je crucifie ma chair ». Crucifier, là, c'est tuer de façon claire, OK? Crucifier, c'est vraiment ne pas laisser de place à notre chair et à tout ce qu'on a vu ensemble, tout ce qu'on a nommé dans notre vie, d'écraser ça avec l'aide du Seigneur, de combattre ça de toute notre force avec l'aide du Seigneur et de marcher dans le fruit de l'Esprit. Combien vous vous êtes engagés et vous engagez aujourd'hui avec moi dans cette voie d'écraser et de crucifier la chair et de vivre par l'Esprit? Et par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. On a vraiment besoin de l'aide d'en haut, de l'aide de l'Esprit de Dieu qui nous anime, qui nous fortifie, qui nous aide. Et combien ici, vous savez que même si tu as réglé le cas d'un péché dans ta vie, le fait qu'on est encore sur cette terre, il peut revenir des fois. OK? Ils ne sont jamais complètement morts, ces affaires-là. Tant qu'on est dans ce corps, il faut être vigilant et se battre et crucifier notre chair. Un autre verset nous dit ceci dans 1 Pierre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre. » Vous saviez ça, on est des résidents temporaires et étrangers sur la terre. « À vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rend gloire à Dieu le jour où il interviendra. Hein, ce texte magnifique nous appelle à nous abstenir des désirs de notre propre nature qui font la guerre à l'âme. On pourrait lire plusieurs dizaines de textes dans les évangiles et surtout dans les écrits de Paul où on nous parle justement de ce combat entre la chair, de ce combat qui est privé, de ce combat qui est secret, de ce combat qui est intérieur dans nos pensées entre la chair et l'esprit. Jacques, lui, va nous expliquer le mécanisme d'une tentation. Et c'est bien, si on veut défier et surmonter nos tentations, de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne dans nos vies. J'ai un fils qui est très curieux et qui aime comprendre comment tout fonctionne, OK? Comment ça marche, comment ça fonctionne. Il voudrait comprendre le mécanisme. Il écoute des émissions des fois de scientifiques pour comprendre les affaires. Donc, il est passionné par comprendre comment les choses fonctionnent. Et aujourd'hui, on va regarder un texte. Jacques nous explique comment une tentation, ça fonctionne. Et on va la décortiquer rapidement ensemble. Et ça va nous aider, je crois, à les surmonter. Est-ce que vous êtes prêts à ça? À surmonter, à devenir victorieux, à devenir des winners, OK, dans le royaume de Dieu. Jacques 1, verset 12. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Et on voit ici, rapidement, 5 étapes, comment la tentation opère dans notre vie. La première étape, c'est un désir qui s'éveille. Okay? Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Un désir qui s'éveille. Pour englober toutes les tentations possibles, on va parler aujourd'hui de la tentation de manger un gâteau au chocolat. Quand je vais en parler, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle autre tentation que vous vivez, que vous expérimentez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça commence comment? Ça commence par un élément déclencheur, c'est que tout le monde est couché dans la maison, tu te lèves le soir, et là, il y a sur le comptoir, tu ris parce que tu as déjà vécu ça, hein? Je sais. Et là, tu te lèves le soir, et là, sur le comptoir, il y a une immense part de gâteau au chocolat. Ton regard le voit, ça déclenche quelque chose en toi, c'est le début de la tentation. C'est l'étape 1. On peut l'appliquer à n'importe quelle tentation que vous avez. Okay? N'importe quelle. Pour quelqu'un que sa faiblesse, c'est de critiquer, de chialer, puis de déverser de la colère sur les médias sociaux, c'est que quand tu es sur Facebook, et là, il y a un post qui apparaît, et là, ça vient te chercher. Oh, que ça vient te chercher dans tes valeurs. Et là, oh, ça vient te chercher. Puis, tu comprends, la tentation est là. L'étape d'être tenté, là, c'est pas encore péché. Vous êtes là? L'étape d'être tenté, c'est juste la vie normale sur la planète Terre. Okay? On est tenté, on est des êtres humains, il y a des choses qui nous tentent selon les désirs qui nous habitent de notre nature charnelle. Ça, c'est l'étape 1. Maintenant, l'étape 2. Un désir qui est encouragé. Ah ben. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, comment est-ce qu'on encourage un désir? C'est que lorsque la tentation pop comme ça, là, au lieu de s'en détourner rapidement, on l'encourage. Ça se passe dans notre tête, ça se passe dans nos pensées. Si on revient à notre super exemple de gâteau au chocolat, on le regarde et on fait « Oh, palais, qu'il a l'air bon! » Puis là, ça spin dans notre tête. « Oh, yeah, 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 yeah! » Ça, c'est du gâteau au chocolat, mon ami. Là, on s'imagine dans notre tête la texture moelleuse, le goût sucré juste assez, hein, la petite touche de caramel salé, l'explosion de saveur dans la bouche, les papilles gustatives en ébullition. Hein, notre cerveau spin, puis on part dans notre tête. Ça, c'est d'encourager la tentation. Et on va le voir dans un instant. Quand on est rendu là, on est déjà rendu trop loin. Quand on est rendu là, c'est déjà rendu pas mal tough de reculer. Quand on se met à spinner et appliquez-le à n'importe quelle tentation que vous avez, si vous n'êtes pas capable, à la fin, venez voir, je vais vous aider à l'appliquer. Okay? Troisièmement, la naissance du péché. Hein? Notre désir qui s'éveille, on encourage ce désir-là et ça donne naissance au péché. Donc là, tu as vu le gâteau, tu l'as désiré, puis là, ben, t'as la bouche toute sale de chocolat parce que t'en as mangé. Comme si t'étais un enfant d'un an qui mangeait son premier gâteau dans sa vie. T'en as plein. Tu as succombé à la tentation. Voyez-vous les trois étapes à date? Le problème, c'est que ça finit pas là. C'est qu'il y a deux autres étapes après qui sont meurtrières et nuisibles. Peut-être pas avec le gâteau au chocolat à ce point-là, là. Mais avec les autres tentations qu'on a dans notre vie, les prochaines étapes sont des étapes qui tuent. Parce qu'après, qu'est-ce qui arrive? Et le péché parvenu à son plein développement. C'est-à-dire que si tu as mangé le gâteau au chocolat, le lendemain, là, qu'est-ce qui se passe en dedans toi, dans ton cerveau? T'en veux encore de ce chocolat-là. T'en veux encore. Fait que là, le chemin est fait. Dans ton cerveau, le chemin est fait. Tu en as déjà mangé. Le processus a pris place. Donc là, c'est plus facile d'aller en remanger, d'y retourner. Et là, le un morceau finit par deux morceaux, trois morceaux. Et pendant la semaine, tu finis par cacher du chocolat partout dans ta maison et en manger la nuit quand tout le monde dort. Et là, ça devient une obsession. Tu vas à l'épicerie, tu achètes du gâteau au chocolat. Tu vas partout, tu achètes du gâteau au chocolat. Tu vas au restaurant, tu achètes du gâteau au chocolat. Et ça devient quelque chose qui prend trop de place dans ta vie et duquel tu perds le contrôle. Tu développes une dépendance au gâteau au chocolat. Bien sûr, on peut l'appliquer à plein d'affaires. Tantôt, je parlais de colère sur les médias sociaux. On peut l'appliquer à n'importe quel péché. La pornographie, le mensonge, ça prend de la place, ça se développe. Puis quand ça se développe en nous, il arrive à l'étape 5, la mort, les conséquences de tout ça. Bien sûr, pour le gâteau au chocolat, ben, je sais pas, tu peux peut-être développer de l'embonpoint, des maladies, je ne sais pas. Mais pour les autres péchés, pour les autres tentations, les conséquences sont vraiment dangereuses, mortelles. Ça peut indiquer le début de la fin de ton couple. La mort de ta vitalité spirituelle. La mort de ton appel à servir Dieu. La mort de ton impact pour Dieu. La mort de ton influence positive auprès de tes enfants. Quand on veut choisir la sainteté, la pureté et vivre pour Dieu et honorer Dieu par notre vie, oui, on le fait pour le Seigneur, mais on le fait aussi pour être un exemple pour nos enfants, pour les gens qui nous entourent. Êtes-vous là? Et personne ici n'est parfait. Je ne veux pas t'écraser, te dire que tu es un mauvais père, tu es une mauvaise mère. Ce n'est pas ça du tout. Dieu a de la grâce pour toi et pour moi, qui est aussi imparfait. Mais ça a un impact direct sur nos enfants. Si on a des dépendances, si on a des problèmes. Même si ces problèmes et ces dépendances sont cachés, ils ne sont pas à la vue des gens. Dieu nous invite et nous appelle à surmonter. Maintenant, comment surmonter? C'est bien beau là, tout ça, mais comment je fais pour être victorieux? Comment je fais pour être un gagnant? Un Rocky qui jette à terre le géant. Comment je fais? On va regarder ensemble comment on fait. Première chose, apprendre à réagir rapidement dans le processus. Vous voyez cette belle glissade derrière moi? Combien ça vous rappelle un ancien souvenir? Hein? On allait au parc de jeux, terrain de jeu, et là, il y avait cette glissade-là en métal. Superbe. En métal, chaud, brûlant, OK? Dangereux, avec aucun garde-corps. Regardez ça. La hauteur, c'est vraiment pas adapté pour un enfant. Aujourd'hui, ça passerait pas. Aujourd'hui, il y aurait des plaintes à la ville. Ça serait la folie. Ça marcherait pas, OK? Imaginez cette glissade-là. Et si tu veux pas glisser dans cette glissade-là, tu veux pas te ramasser en bas de la glissade, parce que tu vas avoir des brûlures au troisième degré peut-être sur tes cuisses en glissant, l'idée, c'est de ne pas monter la première marche. Parce que quand tu montes la première marche, qu'est-ce que tu te dis en dedans toi? Je pourrais monter l'autre marche. Tu montes la deuxième marche. Là, tu te ramasses en haut. Puis tu dis, mais je suis rendu en haut, pourquoi est-ce que je ne glisserais pas? Et tu finis par glisser. Et la tentation, si tu ne veux pas glisser dans la tentation, il faut que tu restes loin du terrain de jeu. Il faut que tu restes loin de ce qui est une faiblesse pour toi. Il faut que ça devienne un réflexe de t'éloigner de ce qui peut te faire glisser. Vous êtes là? Encore une fois, vous pouvez l'appliquer à toutes. Restez loin. Une autre image qui va apparaître, que je trouvais un petit peu drôle, apprendre à réagir rapidement dans le processus de la tentation. C'est un genre de jeu, OK? J'ai jamais joué à ça, mais je trouve que ça a l'air trop cool. C'est un gars au milieu avec un gros marteau. Et là, autour, tu as des trous, puis il y a des gens qui sont dedans. On va l'essayer tantôt à la fin de la réunion. Là. On va avoir du fun ensemble. Et là, il y a des petites balles autour de la personne qui a le marteau. Puis là, les gens, ils se lèvent. Il faut qu'ils prennent des petites balles puis qu'ils se recachent dans le trou. C'est ça le but du jeu. Puis la personne qui a le marteau, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle tape sa tête du monde. Okay? Un peu comme les jeux de foire où il y a la petite marmotte qui sort. Il faut que tu tapes sa tête de la marmotte quand elle sort. OK? Mais la façon dont on doit le traiter, le péché, c'est exactement la même chose. J'espère que cette image-là va te rester dans la tête. Je suis désolé, elle va peut-être te rester dans la tête pour longtemps. Mais quand la tentation survient et monte et survient dans ta vie, la bonne réaction du chrétien, c'est comme le gars avec le marteau. C'est qu'on tape dessus tout de suite en bon québécois. Sans attendre, comme un réflexe. OK? C'est une image que tu vois qui pourrait t'amener à d'autres choses. On détourne le regard. Êtes-vous là? Je parle des vraies choses. C'est de rapidement réagir. C'est de tuer l'œuf, je ne me rappelle plus de l'expression, mais tuer l'oiseau dans l'œuf, je ne sais pas si c'est si adapté au contexte, mais de réagir rapidement. Dans le jeu ici, là, si le gars ne fait rien avec son bâton, là, il va se faire voler toutes ses balles. Puis il va perdre. C'est pas vraiment grave. Moi, je suis compétitif et je trouve ça très grave. OK? Mais si tu ne réagis pas pour vraiment boucher ça puis de te détourner des tentations, l'ennemi va venir voler des choses dans ta vie. Il va venir voler, c'est pas juste des petites balles, il va venir voler ton appel, voler ton mariage, voler ton influence chrétienne auprès des autres, voler ta capacité d'évangéliser, voler ta joie, voler ta paix. Quand la tentation survient, il faut réagir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. On continue. Comment surmonter la tentation? Éviter les situations potentiellement dangereuses. Si Je reviens à mon exemple tantôt de quelqu'un qui ça le démange d'écrire des choses colériques sur Facebook. Si tu passes 4 heures à scroller sur Facebook, ça se peut que c'est une situation dangereuse pour toi. Okay? Reste loin de ça. Comprendre nos états de vulnérabilité. Avez-vous remarqué que quand on est fatigué, on est plus facilement tenté? Faites ça, faites ça, faites ça. Quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on est en colère, quand on est déçu, on cède plus facilement à la tentation. Quand on vit de la solitude, l'année et demie qui vient de passer, plusieurs d'entre nous ont vécu de la solitude, peut-être que ça a été un moment de difficulté avec certaines tentations, parce que quand on est seul, quand on est isolé, on est plus exposé aux différentes tentations. Discerner dans quel moment on est, dans quel état on est. Un autre truc, la Bible nous appelle à prier sans cesse. On en a parlé la semaine passée de l'importance de la prière comme arme ultime, qu'on puisse devenir des hommes, des femmes qui restent proches du Seigneur, constamment proches de Dieu. Et de discerner le moyen de s'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13, verset formidable, nous dit ceci. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » On ne peut pas dire « c'est trop dur pour moi, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. » Si Jésus habite en toi, il y a de l'espoir. Parce qu'aucune tentation qui survient dans ta vie est au-delà de ce que tu peux résister. J'espère que tu reçois cette vérité aujourd'hui. J'espère qu'elle remplace un mensonge qui est peut-être là dans ton cœur. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ce que la Bible nous dit ici, c'est que Dieu a pourvu un moyen que tu puisses surmonter les tentations qui surviennent dans ta vie. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours une solution. Quand tu es proche du Seigneur, tu peux même lui demander, « Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis, Seigneur? C'est quoi la solution dans ce contexte-là? » Et Dieu habite en toi. Dieu peut parler à ton cœur. Dieu peut te guider sur le moment même. Combien vous l'avez déjà vécu? Dieu peut te guider sur le moment même. Ça fait penser à cette histoire dans la Bible, cette histoire de Joseph. Très bel homme, Joseph, et il était désiré par la femme de son maître. Son maître s'appelait Potiphar, et elle le désirait, elle le harcelait. Vous connaissez cette histoire si vous êtes chrétien depuis longtemps. Et à un moment donné, elle la grippe par le chandail. Puis qu'est-ce qu'elle lui dit? Quelqu'un le sait? Couche avec moi. Elle te le pogne, puis elle dit là, tu vas coucher avec moi. Et la réaction de Joseph est un modèle pour chacun d'entre nous, comment réagir face à la tentation. Il ne s'est pas dit, « Ah ben, je pourrais peut-être, c'est une belle madame, personne ne va le savoir. » La Bible nous dit qu'il est parti en courant. Il s'est sauvé. Il ne s'est pas juste sauvé, il s'est sauvé tout nu. Flambette. Puis sa tunique, son vêtement est resté dans les mains de la femme. Alors, ça lui a causé du trouble par la suite, comme on connaît la suite de l'histoire. Mais le point ici est que sauve-toi en courant. Reste pas là. Fuis la tentation lorsqu'elle vient dans ta vie. Fais comme Joseph. Sauve-toi de là. Attention au syndrome du chevreuil qui paralyse. Vous avez toute l'image dans votre tête, hein? T'arrives en voiture, puis il y a les phares de ta voiture au DEL qui éclairent le chevreuil, puis au lieu de sauver, il te regarde, comme on dirait dans Charlevoix. Il te regarde comme ça, il te fixe. Et bien, c'est souvent comme ça que les accidents arrivent, qu'on fonce dans les chevreuils. Ne soyons pas comme ces chevreuils. La tentation vient, passe-toi de là. Attends pas. Reste pas sur place à mijoter qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Fuis. Sauve-toi de là. Est-ce que je peux entendre un amen? J'espère que ça aide quelqu'un en quelque part. J'achève bientôt. Restez attentifs. Autre façon, reconnaître et confesser nos péchés. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si ça arrive que tu tombes, que tu commets une erreur, une gaffe, bien, bienvenue dans le domaine de l'humanité. La vie chrétienne, ça nous arrive de tomber parfois. On n'est pas parfait. Mais on a le pardon gratuit auprès de Dieu. Donc, si tu tombes, si t'arrive quelque chose, approche-toi de Dieu. Seigneur, je te demande pardon et le Seigneur te pardonne. Tu n'as pas besoin de te condamner, de t'écraser toi-même, d'écouter les mensonges de l'ennemi qui vont venir pour t'écraser. Tu es pardonné. Tu es enfant de Dieu. La grâce de Dieu est encore assez grande, assez belle et disponible pour toi aujourd'hui, si tu es tombé, si tu as vécu des déceptions de toi-même. Souvent, on fait quelque chose qu'on regrette, on est déçu de soi-même et on reste dans un état de culpabilité pendant longtemps. Et là, ça fait un tourbillon qui tourne et c'est négatif. En tant que chrétien, on est appelé, si malheureusement, on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, reviens à Dieu rapidement. Il t'accueille, il t'aime, il te pardonne. Amen. C'est ce qu'il veut faire avec toi. Je termine avec ceci. Bien choisir l'alimentation de notre âme. Ce que nous regardons, ce que nous entendons, écoutons, ce que nous faisons, les endroits où nous allons, les pensées que nous choisissons d'entretenir. Comment est-ce que tu nourris ton âme? Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire d'un homme qui organisait des combats de chiens. Et à chaque fois qu'il misait sur un chien, il gagnait tout le temps. Il savait toujours quel chien allait gagner le combat. Parce que la semaine, c'était très simple, la semaine, il passait du temps à nourrir un des deux chiens, hein, la bonne nourriture, les steaks et tout. Puis l'autre, il l'affamait. Il ne donnait rien à manger, il n'avait pas de force, il n'y avait rien. Puis lui, il savait lequel des deux chiens était bien nourri, bien alimenté. Et quand le combat prenait place, il se faisait de l'argent puis il arnaquait les gens comme ça parce qu'il savait quel chien allait gagner. Et dans le combat contre le péché, contre la tentation, entre notre chair et notre esprit, si tu nourris ton esprit toute la semaine, tu as plus de chances de finir victorieux dans le combat. Tu as plus de chances d'être victorieux et de vaincre la tentation qui survient. Comment est-ce qu'on nourrit notre âme? Comment est-ce qu'on prend soin de son cœur? Comment est-ce qu'on veille sur soi-même? Oui, on fait attention à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, etc. Mais surtout, on se nourrit de bonnes choses. On se nourrit de quoi? On se nourrit de la parole de Dieu. La Bible, là, le livre, la Bible, c'est écrit la Bible dessus, là. C'est un beau livre pour les chrétiens, mais c'est fait pour être lu, cette affaire-là. C'est fait que tu l'ouvres puis que tu le lis. Puis quand tu le fais, ça fortifie ton âme. La prière. Hein? Écouter des prédications. On en a tellement de choix aujourd'hui. Écoutez, qui tu veux sur la planète Terre aujourd'hui, profites-en. Il y a des bonnes affaires, des affaires bizarres des fois, mais il y a des bonnes affaires. Écoute des prédications. Écoute de la louange. Que ton âme s'abreuve de chants d'adoration, de chants de louange qui élèvent le nom de Jésus. Êtes-vous là ce matin? Nourris ton âme. Prends soin de ton cœur et tu vas avoir une force spéciale pour affronter la tentation. J'ai invité les musiciens à revenir. Ce matin, on veut prier ensemble afin d'être une église victorieuse dans le public, mais dans le secret. Quand personne ne nous voit, de devenir ces chrétiens victorieux, ces chrétiens qui honorent Dieu, ces chrétiens qui avancent, qui sont engagés dans ce combat contre le péché. Dernier texte de la matinée, c'est dans Hébreux 2, verset 14. Et j'aimerais te dire que tu as auprès de Jésus un puissant allié pour surmonter les tentations. Ça dit ceci, « Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hein? » Jésus a vaincu le diable et la mort. Verset 15, « Et libéré tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham, en d'autres mots, à nous autres. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dieu, venant sur terre en Jésus-Christ, dans la condition parfaitement humaine, a été tenté. Jésus a vécu la tentation. Et Jésus, aujourd'hui, veut être ton allié pour devenir victorieux. Peu importe c'est quoi, je n'ai pas nommé toutes les tentations possibles. Tu connais ton propre cœur, tu connais ta propre vie, tu connais tes défis et tes combats. Ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est que Jésus est ton allié. Reste proche de lui. Fais appel à lui. Tu n'es pas seul dans ce combat. Il est là avec toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tous les chrétiens de la planète aussi vivent ces mêmes combats. Et à travers les âges. Et Jésus veut te donner la victoire. Des gens ici ce matin, tu combats certaines choses dans ta vie. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses marcher dans un chemin de liberté. Je ne vais pas te mettre une pression, un joug sur tes épaules, sur ta tête. Je veux te dire aujourd'hui, la liberté est possible. Dieu veut te libérer. Dieu veut te pardonner, te guider vers la victoire. De ton problème, de ta dépendance, ça peut être alcool, médicaments, drogue, faible estime de soi, à la colère, l'impulsivité, le mensonge, toutes les formes de péchés sexuels possibles, tellement accessibles aujourd'hui. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais Jésus est plus puissant que ces chaînes-là, que cette emprise-là que ces péchés peuvent avoir dans ta vie. Et on ne veut pas un christianisme seulement de concept, on veut un christianisme de puissance. Puis la puissance, ce n'est pas juste quand quelqu'un crie en avant. La puissance, c'est quand le Seigneur nous donne la force de résister à la tentation dans le secret de notre maison. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance de Dieu dans un croyant. La force de résister. Ça ne dépend pas tant de toi. Nous, on veut s'abandonner à Dieu, on veut s'approcher de lui, on veut prier, on veut être dans sa présence, mais le Seigneur nous donne lui-même une force spéciale qui vient quand on est connecté avec lui. Donc, en terminant ce matin, on va chanter un dernier chant bientôt, mais est-ce qu'on peut juste pencher la tête un instant, se recueillir devant Dieu? C'est un message bien particulier. On ne prêche pas un message comme ça toutes les semaines, mais je sais que chacun d'entre nous, on peut se reconnaître en quelque part dans ce message-là. Chaque homme, chaque femme, moi-même, pasteur de cette église, je me reconnais dans ce message. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de grandir dans la victoire. J'ai besoin d'avancer dans la sainteté. Et ça commence tout ça par une décision que je t'invite à prendre. Une décision comme Daniel a pris dans la Bible, qu'il a dit, je résolus de ne pas me souiller. Et aujourd'hui, c'est ce que je t'invite à faire. À dire, Seigneur, je viens devant toi, puis je veux prendre une résolution. Je ne serais pas capable de la tenir sans ton aide, mais je m'engage dans ce chemin-là aujourd'hui. Seigneur, je m'engage dans le chemin que tu as pour moi, un chemin où ma vie t'honore, où mon comportement public et privé t'honore, où mes paroles t'honorent. Ce matin, prends quelques instants. Confie-toi à Dieu. Peut-être que tu vas lui demander pardon ce matin. Tu vas lui dire, Seigneur, je te demande pardon pour telle chose qui se passe dans ma vie, dans mes pensées. Je te le donne, je te demande pardon. Purifie-moi. Et par la suite, ça va être, Seigneur, conduis-moi sur un chemin de victoire. Conduis-moi dans un chemin de vie. Approchons-nous de Dieu ce matin. Prenons quelques instants pour sonder nos cœurs et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous.